Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Cabestan, qui est directeur de recherche au CNRS et également professeur à l'Université Baptiste de Hong Kong et qui vient de publier aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat, Demain la Chine, démocratie ou dictature, dont je recommande particulièrement la lecture. Jean-Pierre Cabestan, bonjour.
Bonjour.
Et donc vous consacrez à cette grande question, est-ce que la Chine va se démocratiser? Vous nous apportez une réponse qui met un peu en garde contre des espoirs excessifs qui pourraient être mis sur ce point.
Tout à fait. Il y a évidemment de multiples obstacles à une démocratisation de la Chine. Si je voulais faire simple, je dirais tout d'abord, pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent la démocratie, qui veuillent se battre pour que la Chine, pour que le régime politique chinois se démocratise. Et aujourd'hui, en Chine, d'abord, il y a une culture démocratique qui reste extrêmement faible, extrêmement fragile, qui est partagée par une minorité de Chinois. Un intérêt pour le politique est également faible, qui ne suscite pas l'intérêt de la majorité des Chinois. Et donc, une revendication pour une évolution du régime qui est pratiquement inexistante. Et cela en dépit d'une répression qui est réelle et qui tue évidemment toute velléité de réforme. Et je pense que par-delà la répression, c'est le déficit de culture démocratique qui est, pour moi, la principale cause de cette absence d'évolution du régime politique. Déficit de culture démocratique d'abord dans la société, mais aussi et surtout, je dirais, parmi les élites. Et c'est ça, peut-être, c'est une question sur laquelle il faut... Évidemment, ça peut sentir, j'imagine.
Oui, on va s'y consacrer. Et justement, dans votre livre, vous expliquez qu'au-delà des condamnations habituelles, de la nature du régime chinois, ce que vous mettez en lumière, et sans en faire la géographie, c'est que finalement, il y a une profonde légitimité du régime chinois et que les Chinois, dans leur grande majorité, ne regrettent pas leur système politique, voire en sont satisfaits.
Alors, soyons clairs sur le terme légitimité. Pour moi, en tant que personne attachée aux valeurs démocratiques, le régime communiste chinois n'est pas légitime. Pour un démocrate, le régime, donc la dictature du Parti communiste sur la société chinoise n'est pas légitime, elle n'a jamais été légitimée. Elle l'était peut-être en 1949, vous pouvez en douter, puisque c'est le résultat d'une guerre civile. Il n'y a jamais eu d'élection en Chine populaire. On ne sait pas si les responsables politiques chinois sont légitimes. Cela étant, la majorité des Chinois, comme vous venez de l'indiquer, sont favorables, soutiennent ce régime, parce que c'est un régime, aujourd'hui, je ne parle pas du régime à la fin de l'ère maoïste, mais parce que le gouvernement aujourd'hui a démontré sa capacité d'abord à favoriser le développement de la Chine, même si le développement est d'abord un processus qui a été réalisé par les Chinois eux-mêmes, par les entrepreneurs, par tous ceux qui se sont attelés à l'œuvre de développement. Mais enfin, le gouvernement a favorisé ce processus de développement économique, a favorisé donc un supplément de bien-être, tout en maintenant une forme de stabilité et de sécurité pour la majorité des Chinois, qui évidemment que les Chinois apprécient beaucoup. Et ce sont les raisons essentielles de la légitimité politique du régime chinois actuel.
Oui, vous mettez en avant donc pour le Chinois moyen qu'il regarde que son espérance de vie, son niveau de consommation, son environnement a changé de façon positive sur tous ces facteurs et que du coup, il se dit que les choses vont bien.
Les choses vont mieux. Je pense qu'on peut ajouter à ces facteurs de soutien au régime le fait que le système politique chinois est assez schizophrénique, où il est constitué, si vous voulez, de deux piliers distincts. Vous avez un pilier qui est le Parti communiste, l'institution du Parti communiste, que je compare parfois à une société secrète, parce que c'est un système opaque, dont on ne connaît pas les mécanismes réels de fonctionnement, qui ne rend compte qu'à lui-même, qu'à son chef suprême aujourd'hui, Xi Jinping, il ne rend compte à personne. Les membres du parti sont soumis à une forme d'omerta sur ce qui se passe à l'intérieur du parti. On ne sait pas comment le parti est financé, où va l'argent. Tout ça, c'est extrêmement secret. Le parti contrôle l'État, mais on sait que le parti dirige l'État et que le parti le dirige assez bien, puisqu'il a favorisé une modernisation du système de gouvernement et qu'en dépit des faiblesses, des aléas du système actuel, la gouvernance, si vous voulez, en Chine, c'est quand même beaucoup amélioré. Vous avez donc la façade, l'autre pilier du système chinois, et c'est ça qui contribue à légitimer le régime chinois, c'est que vous avez un pilier étatique, gouvernemental, qui s'est donc modernisé, qui est beaucoup plus au service des Chinois, des citoyens qu'il l'était en 1978, et qui a toujours favorisé surtout le développement économique et l'entreprise. Et ça, c'est un facteur extrêmement important. On peut ajouter que même dans le domaine juridique et judiciaire, les choses ont progressé et vont continuer de progresser, même s'il ne faut pas s'attendre à ce que le Parti communiste mette en place un état de droit, parce qu'à mon sens, il y a antinomie ou incompatibilité entre un système de parti unique qui contrôle la justice et un état de droit comme on l'entend chez nous. Mais il y aura demain, à mon avis, plus de sécurité juridique pour les acteurs économiques et les acteurs civils qui ne s'aventurent pas dans la zone politique. Dès qu'on aborde le politique, là, on est en terrain dangereux et évidemment, on est soumis aux oukases et aux diktats du parti et surtout à l'arbitraire politique du Parti communiste.
Mais vous dites que le terme de soviétisme correspond mieux aux institutions actuelles de la Chine que le terme de communisme.
Oui, parce que les institutions elles-mêmes sont établies sur des bases lénino-staliniennes, c'est-à-dire que c'est le système mis en place par Lénine, perfectionné par Staline, qui a été importé par la Chine en 1949, enfin par le Parti communiste dès sa création en 1921, mais par la Chine populaire dès sa fondation en 1949. Et c'est un système que le Parti communiste chinois a complètement intériorisé. Ça va des institutions formelles comme l'Assemblée populaire nationale à l'échelon national, les assemblées locales, au comité du parti, au gouvernement populaire. Enfin, toutes les institutions sont copiées sur le système soviétique. Et le langage lui-même du Parti communiste est un chinois soviétique, si vous voulez. C'est un langage directement inspiré par le langage et l'idéologie de Lénine et de Staline, et donc de l'Union soviétique. Et là, ça reste... à mon avis, un obstacle fondamental au développement pour une raison, alors parce que une raison idéologique essentielle qui est le fait que c'est un parti communiste qui ne se voit pas au pouvoir pour une période transitoire afin de moderniser le pays et favoriser l'évolution vers autre chose, vers une forme de pluralisme et de démocratie politique. Le parti communiste se voit déjà à la tête d'un système politique qu'il estime démocratique. Et donc, en cela, il a réussi parce qu'il a persuadé, je le montre dans un ensemble d'études d'opinion qui ont été effectuées en Chine ces dernières années, c'est qu'il a réussi à persuader une majorité de Chinois, environ 60%, que leur régime est déjà démocratique. Donc, il est perfectible, mais on peut améliorer les choses, mais il ne va pas pour autant... le Parti communiste ne va pas pour autant évoluer vers autre chose. Il se voit au pouvoir pour 1000 ans et peut-être plus.
Alors il y a 89 millions, 90 millions de membres du Parti communiste chinois. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui un Chinois pour adhérer au Parti communiste ? Et vous écrivez d'ailleurs que le nombre de demandes d'adhésion est beaucoup plus fort que le nombre de personnes réellement admises. Alors pourquoi veut-on adhérer au PC et quels sont les critères pour y être admis ?
Alors, je pense que les Chinois sont très pragmatiques et la démarche est principalement cynique. Ou si vous voulez, elle répond à des soucis de réussite sociale, économique ou de carrière.
C'est pas la lecture des œuvres de Marx ou de Mao.
Je crois qu'ils sont pas persuadés par ce fatras idéologique qui est extrêmement incohérent. Qui, par voie de sédimentation, a ajouté au marxisme, au léninisme, à la pensée Mao Tse-Tung, les idées de réforme de Deng Xiaoping et aujourd'hui les idées de Xi Jinping, qui, dans le rêve chinois, sont un mélange d'idéologie autoritaire, de retour au confucianisme et de perpétuation d'un marxisme-léninisme qui n'a plus aucun contenu, mais qui a pour fondement, évidemment, le rôle dirigeant du Parti communiste. Mais ce n'est pas à cela que les gens adhèrent. Ce à quoi les futurs membres du Parti communiste adhèrent, c'est à l'idée que l'adhésion au Parti communiste sera un raccourci, une échelle ou un tremplin qui leur permettra de réussir dans leur carrière, et surtout s'ils font carrière dans le secteur public, soit dans l'administration, soit dans une entreprise publique, soit dans une institution publique, une université, ou un hôpital. Donc, mais s'il se lance dans les affaires et monte une affaire privée, d'être membre du Parti communiste peut être aussi un avantage, parce que ça leur permet d'avoir des relations en haut lieu dans le système gouvernemental et donc de favoriser la protection ou le développement des intérêts de leur entreprise.
Et alors, sur quels critères est-on admis dans ce parti quand même de masse ?
Alors, il y a un certain nombre de contraintes, je dirais, formelles. Il faut assister pendant un an, en tout cas, à des réunions, à lire les œuvres de Xi Jinping, un certain nombre de contraintes, et surtout écrire des rapports qui démontrent, ou des essais qui démontrent qu'on a compris l'idéologie du parti. Alors les Chinois y sont habitués parce que ça rappelle un peu les examens impériaux, mais d'un autre côté, cela ne prouve pas grand-chose. Ce qui est important pour eux, c'est le résultat. Alors certaines catégories de la population peuvent adhérer au Parti communiste plus facilement que d'autres, notamment les élites ou les futures élites, les étudiants, les hommes d'affaires, tous ceux qui sont appelés à jouer un rôle social plus important que les autres, seront favorisés. Donc c'est devenu un parti d'élite, hein, finalement. Oui. Ce parti de masse, 90
millions. C'est pas un parti ouvrier.
Alors il y a encore des ouvriers, 25%, il y a encore des paysans, une vingtaine de pourcents, mais ce sont des statistiques, ce sont des catégories très, très, très lâches. Parmi les 20% de paysans qui sont encore membres du Parti communiste, vous avez beaucoup de cadres de la campagne, des cadres des villages et des bourgs. Ce ne sont pas véritablement des paysans. Donc, ces statistiques sont trompeuses et on voit bien que petit à petit, le Parti communiste, de par sa composition sociologique, est devenu un parti de cadre. Mais c'est un parti de cadre qui est extrêmement hiérarchique et donc l'adhésion au parti peut favoriser donc les relations, peut présenter certains avantages, mais la majorité des membres du parti, des 90 millions de membres, n'ont aucun accès à la décision, donc un pouvoir décisionnel ou même pouvoir d'influence sur les décisions qui se prennent soit au sommet, soit même à l'échelon provincial ou infraprovincial. Ceux qui décident, ce sont une minorité qu'on estime environ à 600 000 cadres dirigeants. Ça fait beaucoup en nombre, mais pour la Chine, ce n'est pas tant que ça, puisque vous divisez par 30, ça fait 20 000 cadres par province. La province chinoise a c'est à peu près la taille d'un pays européen. Donc, ces élites, ce sont ces 600 000 cadres dirigeants qui, véritablement, ont un accès à la décision et peuvent influencer les politiques publiques ou même les orientations politiques du régime. Mais là encore, vous avez beaucoup d'inégalités entre les niveaux hiérarchiques. C'est ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette extrême hiérarchisation des relations au sein du parti et aussi le fait que ce parti fonctionne de manière extrêmement opaque et qu'on ne connaît pas le fonctionnement réel du parti.
Outre la réussite économique, vous mettez en avant que la popularité, légitimité, en tous les cas le fait qu'il y ait une adhésion des Chinois au Parti communiste, vient aussi du patriotisme ou du nationalisme. Enfin, disons que la fierté nationale, et cela dès Mao, mais y compris jusqu'à maintenant, donc la fibre nationale compte énormément.
Oui, le nationalisme a été depuis Tiananmen, depuis 1989, un des fondements de la légitimité du régime. Il a été promu ouvertement par Deng Xiaoping et ses successeurs depuis donc près de 30 ans. C'est devenu un substitut du marxisme-léninisme, de l'idéologie socialiste classique. Ce nationalisme est nourri par un certain nombre d'évolutions importantes, celle-ci que je viens d'indiquer, mais aussi le fait que la Chine s'est enrichie, le fait que la Chine soit devenue beaucoup plus puissante et que la Chine compte sur la scène internationale. Donc évidemment, la société chinoise en retire une certaine fierté et sont de plus en plus attentives à la manière dont la Chine est traitée à l'extérieur et de plus en plus réactives aussi lorsqu'ils estiment que la Chine voit ses intérêts bafoués par d'autres puissances, y compris les États-Unis. Alors, évidemment, ils sont plus nationalistes avec les pays, je dirais, plus faibles, avec lesquels ils peuvent, avec lesquels ils peuvent combattre et surtout gagner des points. Je pense les pays européens ou même le Japon aujourd'hui. Mais ce nationalisme est aussi un moyen pour le Parti communiste de souder la population autour de son projet politique. Et c'est une arme qui fonctionne jusqu'à maintenant extrêmement bien.
Est-ce que l'on peut parler de société civile en Chine? Est-ce qu'il y a des... Vous dites qu'il y a beaucoup d'ONG, mais qu'elles ont un peu un statut spécial. Comment décririez-vous ce qu'on appelle dans d'autres pays la société civile?
Alors, ce qu'on peut d'abord dire, c'est que la société chinoise est une société pluraliste. Il y a un véritable pluralisme au sein de la société, contrairement à l'époque de Mao. Les gens ont des idées divergentes, ont des intérêts divergents et ne n'hésitent pas à les afficher et les défendre. La deuxième chose, c'est que il y a depuis une vingtaine d'années un phénomène associatif qui s'est développé, qui a d'abord été très contrôlé par le centre, par le gouvernement, par le parti, et puis qui s'est peu relâché. Il y a un moment assez intéressant dans l'évolution de cette société civile, qui est encore, je pense, embryonnaire, balbutiante, c'est le tremblement de terre de Wenchuan en 2008. C'était l'occasion d'une mobilisation de la société, de la création d'organisations véritablement non gouvernementales, d'initiatives privées, individuelles ou collectives, mais vraiment qui n'avaient aucun rapport avec le gouvernement et qui ont montré que la société pouvait se mobiliser pour des causes comme celle-ci, une cause humanitaire, une cause à l'occasion de cette catastrophe naturelle. Alors après, le gouvernement a repris les choses en main et on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement est de plus en plus vigilant à l'apparition de ces organisations non gouvernementales. La plupart ne sont pas enregistrées en fait. Les véritables ONG en Chine ne sont pas enregistrées ou quand elles sont enregistrées sous la forme d'entreprise, parce que c'est plus facile en Chine d'enregistrer une entreprise qu'une ONG. On sait que c'est impossible, par exemple, d'enregistrer un parti politique. Mais le parti veille au grain et a fait en sorte que la plupart des ONG se trouvent dans une situation de collaboration avec le gouvernement. Le gouvernement il est parvenu à atteindre cet objectif en finançant de plus en plus de projets associatifs. C'est-à-dire que, en d'autres termes, les organisations gouvernementales en Chine sont devenues dépendantes du gouvernement, dépendantes de l'État. Et par exemple, suppléer ou compléter l'œuvre du gouvernement dans tel domaine éducatif, social, protection de l'enfance, lutte contre la pauvreté. Et donc, ces ONG ne se voient pas comme chez nous, dans la théorie ou l'approche d'Habermas, comme un contre-pouvoir, mais plutôt comme un complément de l'action du gouvernement. Et ça, je veux dire que c'est le cas de la majorité des ONG en Chine aujourd'hui. Je pense que les choses continueront d'évoluer. Il y a quand même une volonté de pousser les limites de l'autonomie et une autonomisation de la société qui va continuer qui va se poursuivre. Mais on voit bien que le pouvoir essaye tout de même de contenir cette évolution et que jusqu'à maintenant il y est parvenu.
Alors on peut dire la même chose des réseaux sociaux. Vous écrivez qu'il y a 700 millions d'internautes en Chine, mais que pour autant, sur le débat, est-ce que Internet va amener à une liberté absolue à la démocratie, vous êtes plutôt sceptique.
Oui, parce que bah, tout le monde le sait, 90% des messages sur Internet n'ont rien à voir avec la politique. C'est de l'achat en ligne, c'est des jeux en ligne. C'est des followers, des stars de la télévision et du cinéma. C'est la vie quotidienne, des gens qui ont envie de s'amuser, je dirais, de profiter de la vie.
Et donc, il
La
n'y a pas ce qui
mentalité.
s'est passé en Tunisie ou en Égypte où les réseaux sociaux
Alors,
ont joué un rôle important dans la contestation du pouvoir politique.
là aussi, le gouvernement est extrêmement vigilant. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas répression. Il y a contrôle de l'Internet. Mais la plupart des gens ne s'intéressant pas aux politiques ne voient pas ce contrôle, n'en éprouvent pas les conséquences, ou n'en perçoivent pas la puissance. Alors, peut-être en tout cas, moins de 10% des messages sur Internet sont politiques ou s'intéressent aux politiques. Là-dessus, vous avez beaucoup de censure, parce que dès qu'un message devient un peu trop critique, il est supprimé de la toile par la censure chinoise, et son auteur peut être poursuivi, il peut avoir des ennuis avec la justice. Donc les gens font attention. Alors il y a tout un jeu pour les activistes politiques en Chine de communiquer par des messages codés, et finalement ils parviennent à communiquer, notamment pas tellement par les blogs, parce que les blogs Weibo est assez contrôlé, mais par un système qui s'appelle WeChat ou Weixin en chinois, qui est plus ouvert et qui permet de communiquer dans certaines limites de manière assez rapide. Maintenant, je pense que le gouvernement sait que pour lui, il est essentiel de tuer dans l'œuf toute tentative de mobilisation. Alors, il n'y parvient pas toujours. Il y a eu des cas de mobilisation locale pour telle ou telle affaire, tel ou tel scandale qui ont permis de favoriser l'organisation de manifestations et même d'émeutes anti-gouvernementales. Mais dans l'ensemble, je pense que une mobilisation du type printemps arabe est aujourd'hui inconcevable en Chine. Mais peut-être que ce sera possible demain, mais pour l'instant, en tout cas, j'en vois pas, je ne pense pas que la société en ait les moyens.
Vous écrivez même que finalement, pour le gouvernement, c'est une autre façon de contrôler l'opinion en regardant ce que les gens disent et en les poussant effectivement à la consommation, à la satisfaction des besoins matériels au détriment de l'organisation politique.
Tout à fait. Alors, l'autre aspect, de l'Internet, c'est que le gouvernement, voyant beaucoup de choses, est beaucoup mieux informé qu'auparavant sur les sentiments, les récriminations de la société et peut donc adapter sa politique à ses sentiments. Il y a deux manières de réagir à des mécontentements. Un, c'est de réprimer. L'autre, c'est de modifier les choses. Et je pense que le gouvernement chinois est très réactif lorsqu'il voit que...
Mais ça, c'est un progrès parce que...
Alors ça, c'est un progrès. On peut dire... Alors, les Chinois en tirent argument pour dire... Vous voyez, nous avons mis en place une démocratie consultative. Sauf que c'est un peu par défaut. Et surtout en surveillant les gens et en réprimant à l'occasion les internautes un peu trop bavards et un petit peu trop aventureux.
Mais néanmoins, c'est quand même préférable au tout répressif des régions, enfin, oui. Des années Mao ou...
Alors, oui, et ce qui m'amène à penser, contrairement à certains qui estiment que depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, le régime est devenu tellement répressif qu'on va vers un retour au totalitarisme, je pense que c'est inconcevable aujourd'hui que la Chine revienne à un totalitarisme stalinien ou maoïste. La Chine est tellement ouverte, tellement pluraliste, tellement poreuse aux idées étrangères et est tellement mondialisée sur le plan économique que je vois mal un régime totalitaire réussir à s'imposer en Chine. Ce qui ne veut pas dire que dans l'idéologie de Xi Jinping ou même dans ses projets de contrôle de la société par ce qu'on appelle le système de crédit social qui distribue bons et mauvais points aux citoyens, le gouvernement n'a pas un projet qui ressemble à un projet totalitaire ou même orwellien, diraient certains. Mais je pense que c'est un projet qui ne sera jamais complètement réalisé, étant donné l'état de la société chinoise et de ses relations avec l'extérieur aujourd'hui.
En conclusion, vous faites plutôt un pari sur une relative stabilité, pas d'évolution majeure, pas de rupture, mais une sorte de continuité dans l'évolution que la Chine connaît depuis plusieurs années.
Alors je pense qu'à moyen terme, la Chine n'évoluera pas, le régime est fort, légitime, très installé, et la plupart des Chinois ne conçoivent pas une évolution du régime. Mais là, je voudrais ajouter quelque chose sur les élites, parce que finalement, les évolutions qu'on a connues par le passé, en Corée du Sud, à Taïwan ou ailleurs, ont beaucoup dépendu des élites et des contre-élites. Et là, la majorité des élites chinoises sont extrêmement conservatrices. Que ce soit les élites politiques du parti, et là, les élites politiques du parti doivent évidemment être très, très prudentes. En Union soviétique, Gorbatchev est resté avancé masqué jusqu'au dernier moment. Et on ne sait pas si Li Keqiang est un démocrate caché ou Xi Jinping, a fortiori, je ne pense pas qu'il le soit. Maintenant, les élites entrepreneuriales elles-mêmes sont pour la plupart très conservatrices, assez contente du système actuel, et même si elle voudrait avoir plus de voix au chapitre, elle serait assez tentée par un système à la hongkongaise qui donne une place et politique et donne une influence politique aux élites qui est autrement plus importante que celle des citoyens. Quant aux élites intellectuelles, elles sont dominées par ce qu'on appelle la nouvelle gauche, qui a des tendances maoïstes ou néo-maoïstes, ou les néo-confucéens, et ça, c'est le pouvoir favorise ces deux courants par rapport surtout au courant libéral, qui a été largement marginalisé par Xi Jinping, mais même avant, et qui a du mal à survivre. C'est pour, en particulier, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le mouvement qu'on appelle en Chine constitutionnaliste a été réprimé et largement soumis au silence. Donc, et ça, c'est important parce que ça n'augure pas d'une évolution rapide du système. À terme, Je pense que d'ici 20 ou 30 ans, les choses pourraient changer et les idées démocratiques pourraient devenir plus influentes. Est-ce que ça va permettre une démocratisation en douceur de la Chine? Je m'interroge et j'ai des doutes sur justement à la fois l'évolution finale, enfin l'objectif final du régime chinois et aussi le processus par lequel la Chine pourrait évoluer vers autre chose. Je suis inquiet sur ces deux fronts parce qu'il y aura beaucoup de forces qui résisteront à une démocratisation de la Chine, en tout cas dans les années, les deux ou trois décennies qui viennent.
Merci Jean-Pierre Cabestan. Je renvoie à la lecture de votre livre passionnant « Demain la Chine, démocratie ou dictature » qui vient de paraître aux éditions Gallimard.